Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Sa mort met l'Iran au pied du mur. Hassan Nasrallah, le puissant chef du Hezbollah, a été éliminé vendredi par une frappe israélienne dans la banlieue sud de Beyrouth. Il était l'homme fort de la milice, créée, financée et armée depuis 40 ans par Téhéran. L'Iran, clairement dans le viseur de Benjamin Netanyahou, dans sa première déclaration, après avoir donné le feu vert aux frappes qui ont tué le numéro 1 du Hezbollah.
Au régime des ayatollahs, je dis, quiconque nous frappe, nous le frapperons. Il n'y a pas d'endroit en Iran ou au Moyen-Orient que le bras long d'Israël ne puisse atteindre.
L'élimination d'Hassan Nasrallah est le dernier coup porté par Israël à l'Iran après les attaques contre le consulat iranien à Damas et contre le chef du Hamas tué en plein cœur de Téhéran. À chaque fois, le régime des Mollahs promet de répliquer, encore hier devant la presse.
La réaction de l'Iran contre les crimes du régime sioniste aura lieu au moment opportun. La décision sera prise au plus haut niveau.
Quelle forme pourrait prendre cette riposte? En avril dernier, l'Iran avait lancé une attaque sans précédent contre Israël en envoyant plusieurs centaines de missiles et de drones tueurs. Une attaque déjouée par la défense israélienne.
La menace iranienne s'est heurtée à la supériorité technologique de l'armée israélienne.
L'Iran assure ce soir qu'il n'enverra pas de combattants au sol pour affronter Israël à Gaza et au Liban. Alors l'Iran compte-t-il vraiment répliquer? Comment? Guerre totale ou réponse à minima pour ménager sa population? Obsédé par sa survie et la levée des sanctions internationales, le régime de Téhéran peut-il faire profil bas ou au contraire menacer de développer l'arme nucléaire?
Et bien justement, pour explorer ces hypothèses, nos trois invités, Farid Vahid, bonsoir, vous êtes co-directeur de l'Observatoire Afrique du Nord et Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès. Selon vous, le Hezbollah est complètement décapité. La mort d'Hassan Nasrallah est un coup très dur porté à l'Iran qui n'a pas les moyens militaires pour réagir, avec de plus, ajoutez-vous, une population iranienne majoritairement opposée au régime iranien. Donc, à côté de vous, Christophe Ayad, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au quotidien Le Monde, spécialiste du Proche-Orient. Vous faites sortir Géopolitique du Hezbollah aux presses universitaires de France. Selon vous, Téhéran n'a pas envie de se lancer dans une escalade qui pourrait mener le pays et le régime jusqu'à la mort de son guide suprême, puisqu'Israël a déjà éliminé un chef du Hamas dans la capitale iranienne. Effectivement, on y reviendra, on se le remémorera. Et à côté de vous, Eloïse Fayet, chercheuse à l'IFRI, spécialiste du Moyen-Orient. Bonsoir, madame.
Bonsoir.
Vous dirigez le programme de recherche, dissuasion et prolifération, donc à l'IFRI. Selon vous, franchir le cap de la fabrication de l'arme nucléaire peut entrer dans le calcul des Iraniens en fonction de l'attitude israélienne et du résultat, ne l'oublions pas, de l'élection présidentielle américaine qui aura lieu en novembre. Et on commence avec la déclaration du jour.
Elle est signée du premier vice-président iranien. Nous avertissons les dirigeants du régime d'occupation que l'effusion de sang injuste entraînera la destruction d'Israël. Voilà ce qu'a déclaré Mohammad Reza Aref. La menace est explicite en réaction donc à l'assassinat de Nasrallah. Farid Vahid, est-ce que l'Iran estime avoir été directement visé par cet assassinat?
L'Iran, non. La République islamique, oui, certainement. Mm-hmm. Et voilà, c'est le genre de mot et de narratif qui... Parfois, on a le sentiment que les responsables de la République islamique vivent dans un monde parallèle. Ils continuent de parler de la destruction d'Israël alors que toute la chaîne de commandement du Hezbollah était décapitée. Le régime a investi pendant des décennies sur le Hezbollah, qui était la pièce maîtresse de sa doctrine militaire dans la région, ce qu'eux appellent l'axe de la résistance, donc leur dissuasion, ce que les autres appellent l'importation de la République islamique, de la révolution islamique. En fait, c'est qu'au Liban, avec le Hezbollah, que cette importation de la révolution, on peut dire, dans une certaine mesure, avait fonctionné, avec toutes les conséquences que ça a eu pour le Liban. Donc le Hezbollah, pour la République islamique, c'est ce qui aurait empêché une attaque directe israélienne sur le territoire iranien.
– Eloïse Fayet, c'est vrai que pour l'Iran, le Hezbollah, c'est un moyen de dissuasion majeur, c'est ça ?–
Oui, effectivement, la stratégie la stratégie de dissuasion conventionnelle iranienne, elle repose sur deux piliers, donc cette axe de la résistance, ce réseau de milices souvent chiites, mis en place par l'Iran, financé par l'Iran. Donc évidemment, le Hezbollah qui était la plus puissante, la plus menaçante, mais également certaines milices chiites irakiennes, les Houthis au Yémen, plus indirectement le Hamas et le djihad islamique palestinien. Et puis, de l'autre côté, son arsenal de drones, de missiles balistiques et de missiles de croisière qu'ils avaient mis en œuvre avec un succès limité donc en avril 2024 pour venger cette frappe israélienne sur le consulat à Damas. Et donc, on se demande aujourd'hui, en fait, s'ils ont encore les moyens techniques de refaire une telle attaque.
Christophe Ayad, le Hezbollah, qui est à la fois une milice très armée et un parti politique chiite, donc le parti de Dieu au Liban, est-ce que la mort d'Hassan Nasrallah signe la fin du Hezbollah, d'une certaine façon ?
Non, pour moi, la mort de Nasrallah signe la fin de ce Hezbollah, du Hezbollah qu'on a connu ces dernières années, surarmé, se conduisant quasiment comme une armée à la place de l'armée du Liban, se conduisant Nasrallah comme le principal architecte de la vie politique libanaise, ça c'est probablement fini parce que on n'aura pas quelqu'un d'aussi expérimenté pour gérer toutes les relations confessionnelles politiques au Liban et on va mettre des années à reconstituer. Peut-être qu'on ne reconstituera jamais, d'ailleurs, l'arsenal qui avait été accumulé, l'expérience de toute la chaîne de commandement, comme disait Farid Vahid. Tous ces gens sont des gens qui travaillaient depuis 20, 30, 40 ans pour certains d'entre eux. Ça, cette expérience, elle est perdue. Maintenant, le Hezbollah, c'est quand même le principal parti de la communauté chiite au Liban, et ça, il ne va pas disparaître.
Ça représente combien de gens, la communauté chiite au Liban, à peu près 30% de la population, à peu près 25%.
On ne compte plus un tiers officiellement du pays, probablement la moitié. Ouais. Personne n'a envie de compter, parce que personne n'a envie de savoir qui est le plus nombreux au Liban.
Farid Vahid, quel va être maintenant le rôle de l'Iran face à cette déflagration qui a frappé le Hezbollah ? Est-ce qu'ils vont aller jusqu'à nommer quasiment eux-mêmes le successeur Nasrallah ? Quelles décisions stratégiques peuvent-ils prendre en place et lieu du Hezbollah ?
Aujourd'hui, pour le remplaçant de Nasrallah, on parle beaucoup de son cousin, qui a lui aussi fait ses études religieuses comme Nasrallah en Iran. Donc c'est des membres du clergé chiite libanais qui ont quand même des liens très étroits avec la République islamique d'Iran.
Voire qui sont formés là-bas pour certains.
Qui sont formés en Iran, qui ont même des relations familiales. Et la personne dont on parle pour remplacer Seyed Hassan Nasrallah, son fils est le gendre du général Soleimani, donc il y a quand même des liens très proches entre le Hezbollah et les gardiens de la révolution.
Vous rappelez qui était le général Soleimani ?
Qui était l'architecte de ce qu'on appelle l'axe de la résistance, le chef de la force rote, ces gardiens de la révolution, qui a été éliminé par une frappe américaine en 2020 à Bagdad. Après, sur la réaction éventuelle militaire iranienne, j'y crois pas du tout. La principale priorité pour la République islamique, c'est sa survie. Et aujourd'hui, Israël montre une telle domination écrasante depuis l'histoire des bipères et l'élimination de Nasrallah que je pense que le régime de Téhéran n'a aucunement envie de s'engager dans une guerre contre Israël.
On va y venir sur cette possibilité éventuellement que l'Iran réagisse, mais pour rester, Louis Fayet, sur le Hezbollah, est-ce que certains disent que l'Iran n'a plus intérêt maintenant à soutenir le Hezbollah, et même qu'il ne l'a pas soutenu quand le Hezbollah s'est lancé dans une offensive contre Israël après le 7 octobre dernier ?
Oui, en fait, l'Iran a quand même une relation assez ambiguë avec les milices qui composent l'axe de la résistance, étant donné qu'elles servent évidemment les buts stratégiques de l'Iran, mais qu'en même temps, elles promeuvent des intérêts locaux. Donc typiquement, dans le cas du Hezbollah, il arrive que les objectifs locaux de Nasrallah et du parti surplantent en fait les objectifs disons internationaux de l'Iran, notamment parce qu'en fait, et ça a été expliqué, le Hezbollah est tellement bien intégré à la vie politique et économique libanaise que désormais l'Iran a bien moins de levier pour justement essayer de négocier, essayer de pousser le Hezbollah à faire certaines choses. Le régime iranien est fortement affecté par une crise économique et donc a tout simplement moins d'argent à donner à ses affiliés, et donc certaines milices, le Hezbollah, certaines milices chiites du Hashd al-Shaabi en Irak, signalent tout simplement à l'Iran, mais pourquoi est-ce qu'on servirait vos intérêts, étant donné que vous n'avez quasiment rien à nous apporter en échange? Et donc, effectivement, l'Iran, qui a toujours montré, alors de façade évidemment, une volonté de désescalade et de se désolidariser totalement du Hamas et des efforts du Hezbollah pour lutter contre Israël, et bien du coup maintenant l'Iran se retrouve un peu coincé en fait.
– Mais Christophe Ayad, est-ce que certains disent que finalement les Israéliens ont fait le sale boulot, que les Occidentaux n'auraient pas fait, et que le Hezbollah n'est plus soutenu par une majorité de pays? Est-ce que c'est le cas? Qui soutient encore aujourd'hui le Hezbollah? Est-ce que le cas de la communauté chiite, notamment au Liban, ou pas? Est-ce qu'il est soutenu?
Est-ce que le Hezbollah peut compter sur son réseau d'alliés pour réexister? Non. Le Hezbollah, sa force, c'est le contrôle des chiites du Liban.
Et du territoire du sud
et du
Liban,
territoire du sud, de la banlieue sud de Beyrouth et de la vallée de la Beka, je le rappelle, qui borde la frontière avec la Syrie.
Alors, on va évoquer cette question. Est-ce que l'Iran a les moyens de combattre Israël en faisant une sorte d'état des lieux, vraiment au niveau de l'armement avec vous, Anna?
Oui, exactement. Sur le papier, l'armée iranienne est plus nombreuse que l'armée israélienne. 600 000 combattants contre 170 000. Elle dispose aussi de beaucoup plus de matériel qu'Israël, sauf que les tanks iraniens datent de l'époque soviétique et que leurs avions datent d'avant la révolution islamique de 1979. C'est donc très difficile pour l'Iran de rivaliser à terre ou dans les airs avec Israël. Mais en revanche, le régime iranien a tout de même réussi à développer son propre système de défense anti-aérienne ces dernières années, et cela malgré les sanctions internationales et un budget de défense qui est quand même deux fois et demi moins élevé que celui d'Israël. Il y a 10 jours donc, les gardiens de la Révolution ont présenté leur nouveau missile, on va le voir, à combustible liquide, il s'appelle le Jihad, et c'était à l'occasion du défilé militaire annuel, le Jihad qui est donc capable d'atteindre une cible à plus de 1000 km. Et puis l'Iran s'est aussi spécialisé dans la fabrication locale de drones kamikazes, des drones qui au passage sont utilisés en ce moment en Ukraine par les Russes. Et pour rappel, c'est grâce à cette combinaison d'armement, donc les drones plus les missiles balistiques, on l'a dit, que l'Iran avait lancé cette attaque dans la nuit du 13 au 14 avril dernier, attaque qui s'était soldée par un échec et qui, de fait, avait plutôt prouvé l'efficacité du dôme de fer israélien. Farid Vaïd, si aujourd'hui l'Iran n'attaque pas frontalement Israël, est-ce que c'est parce qu'ils savent qu'ils ne feront pas du tout le poids ou bien c'est parce qu'ils ne veulent pas sacrifier leur arsenal militaire pour rendre leur proxy?
En fait, quelle serait l'utilité et l'objectif d'une attaque iranienne sur Israël? S'ils cherchent de mener une action spectaculaire en faisant des dizaines, voire des centaines de morts, peut-être qu'ils en seraient capables, en utilisant un grand nombre de missiles, de le faire. Mais à quoi bon? La réaction immédiate israélienne serait de détruire les installations pétrolières iraniennes, les installations nucléaires iraniennes. Donc Israël est aujourd'hui en mesure de complètement paralyser l'économie iranienne et d'aller beaucoup plus loin, comme disait Netanyahou. Il n'y a aucun endroit en Iran où les Israéliens ne seraient pas capables aujourd'hui
de frapper.
Donc la domination technologique israélienne est écrasante. Et quand on dit Israël, il ne faut pas oublier qu'il y a derrière les États-Unis d'Amérique. S'il y a une confrontation directe entre Iran et Israël, les Américains vont rentrer dans le jeu. Et d'ailleurs, c'est peut-être...
Les Américains qui sont déjà positionnés dans la région.
Les Américains qui sont dans le Golfe Persique, qui sont dans la Méditerranée, et ils ont leur porte-avions, leur base militaire. Donc les Iraniens aujourd'hui, s'ils tombent dans le piège d'attaquer directement les Israéliens, c'est eux qui ont payé le prix très lourdement. Après, une petite nuance. Ni l'un ni l'autre, ni les Israéliens ni les Iraniens, ne sont pas en mesure de dominer complètement l'adversaire. Parce que l'Iran, certes, technologiquement est inférieur, mais géographiquement, c'est un très grand pays. Donc ni les Israéliens ni les Iraniens ne peuvent pas que militairement dominer et écraser l'adversaire.
Mais Loïs Faye, vraiment, l'Iran peut rester sans répliquer. Il y va aussi de sa suprématie dans la région.
Oui, mais en même temps, on peut dire qu'ils n'ont toujours pas vengé, comme s'était engagé, la mort d'Ismaël Haniyeh fin juillet. Et ils peuvent peut-être concevoir une petite opération, par exemple, contre une ambassade israélienne à l'étranger, ou des attaques cyber, ou dire qu'effectivement, pour le moment, le jour de la vengeance n'est pas arrivé, mais qu'il convient d'être patient. Et ils pourront maintenir peut-être une certaine crédibilité aux yeux de leur proxy en faisant cela. Mais je soutiens tout à fait l'analyse de Farid. À ce jour, aucun ne peut avoir la domination. Et en fait, l'Iran n'a pas intérêt à réessayer l'attaque d'avril 2024, qui d'ailleurs n'était pas tant une défaite que cela, parce qu'il faut se poser la question de l'intention en fait, de cette attaque. Est-ce que c'était uniquement une démonstration de force ou un vrai échec?
L'attaque d'avril, elle était annoncée.
Oui, tout à fait. Voilà, il y avait un préavis de 2 semaines.
Il y avait quasiment un préavis. Les Israéliens les attendaient. Le fait qu'elle n'ait pas été une grande réussite était assez prévisible.
Voilà, c'était même recherché.
C'était une attaque en rétorsion à l'attaque très ciblée contre le consulat iranien à Damas.
Mais le but était de ne pas faire trop de morts en Israël.
Trop de morts civils, exactement, c'est ça. Une question, Farid Vaïd. Est-ce que la société civile iranienne suivrait, serait en accord ou au contraire, pas du tout et parfaitement démobilisée par rapport à ce conflit entre Israël, entre l'Iran et le proxy
Hezbollah? N'a aucun intérêt à rentrer dans une guerre idéologique dans la région, parce qu'ils sont face à une société qui est très majoritairement aujourd'hui contre le régime, qui a été sécularisée, qui ne partage pas du tout cette idéologie islamique chiite du régime dans la région. Je veux dire, pour la plupart des Iraniens, c'est Ah, le conflit israélo-palestinien, ça ne les concerne pas. On voit même maintenant une tendance où les Iraniens, en plus de, on va dire, de sympathie, en tout cas, ils vont être plus proches des Israéliens par la haine du Hamas. Ils détestent le Hamas parce qu'ils détestent la République islamique. Pour la plupart des Iraniens, tout ce qui touche de proche ou de loin la République islamique est détestable. Donc le régime aujourd'hui a une population qui la déteste, économiquement dans une situation plus que fragile, avec certes beaucoup de missiles, mais qui seront tous interceptés en grande partie par le Dôme de Fer. Donc pour moi aujourd'hui, la non-réaction de la République islamique à l'assassinat de Nasrallah, en fait, ça confirme la domination finalement israélienne dans la région et l'impuissance iranienne.
Mais cette défiance des Iraniens vis-à-vis de leur, du régime iranien, Christophe Ayad, est-ce que ça peut encourager l'Israélien à aller plus loin, à menacer directement le guide suprême, par exemple, dont on dit qu'il a été placé en lieu sûr ces derniers temps?
Oui, ben je peux comprendre pourquoi. Il a vu disparaître le chef du Hamas chez lui, le jour de l'intronisation du nouveau président élu en Iran. Il voit disparaître son principal allié et le numéro un de ce qu'on appelle effectivement l'axe de la résistance.
Ce qu'il s'appelle l'axe de la résistance.
Voilà, au cœur de Beyrouth. Donc, il peut se poser des questions. Il faut rappeler aussi que après les frappes iraniennes assez peu efficaces contre Israël en avril, le surlendemain, Israël avait répliqué et avait détruit des systèmes de défense antiaérienne autour des sites nucléaires, qui était un avertissement quand même on ne peut plus clair. Donc je pense que si Israël veut tuer des hauts dirigeants iraniens, il a tout à fait les moyens de le faire. Maintenant, c'est ouvrir une porte dont on ne sait pas où elle conduit. Parce que qui pourrait succéder au guide, c'est une question extrêmement complexe qui concerne les Iraniens et qui concerne les cercles de pouvoir en Iran qui sont nombreux, divers, divisés et dans lesquels pèsent beaucoup. On pourrait se retrouver avec un militaire à la tête de l'Iran, notamment quelqu'un sorti des gardiens de la Révolution, ce qui ne serait pas forcément un gain du point de vue israélien.
Alors, on parlait des États-Unis tout à l'heure, les États-Unis qui restent, quoi qu'il arrive, aux côtés d'Israël et qui ont averti l'Iran. Écoutez le porte-parole du Conseil de la Sécurité nationale à la Maison-Blanche, John Kirby.
Their rhetoric certainly suggests they're going to try to do something. I mean, just coming out of Tehran, but we don't really know. I would add, though, that we now have more force capability in the Middle East than we did in April when Iran launched hundreds of missiles and drones. So there is already a very robust military capability to defend ourselves and to help defend Israel if it comes to that.
Et j'ajoute qu'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a dit aujourd'hui que le monde était plus sûr, c'est ce qu'il a affirmé, grâce à la mort de Nasrallah. Éloïse Faye, ça pose aussi la question des moyens de défense iranien, et notamment du nucléaire, vous le disiez tout à l'heure. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? On a l'impression que le nouveau président iranien, Pezeshkian, était plutôt dans une volonté de négocier. Et maintenant, que peut-il se passer?
Oui, tout à fait. Le président Pezeshkian, quand il était à l'Assemblée générale des Nations Unies la semaine dernière, a appelé effectivement, signalé qu'il était prêt à reprendre les négociations, qu'il était prêt même à poser les armes si Israël faisait la même chose. Alors, comme on l'a dit, le régime iranien est tout de même très divisé en interne, avec des gardiens de la révolution qui ne sont pas forcément favorables à un président aussi modéré qu'un président iranien validé par le guide suprême puisse l'être. Mais c'est certain qu'il représente en tout cas une tentative d'ouverture. Mais aujourd'hui, l'Iran se retrouve à la nécessité de sanctuariser en fait son territoire, mais il faut bien avoir en tête que là, ce ne sont pas les intérêts vitaux de l'Iran qui ont été affectés. La mort de Nasrallah, aussi regrettable soit-elle pour l'axe de la résistance, ça ne remet pas en cause l'existence de l'État iranien. Et pour le moment, le président et, je pense, les gardes de la Révolution et surtout le guide suprême, qui lui prendra la décision, c'est que le coût stratégique, financier et technologique du développement de l'arme nucléaire est encore beaucoup trop élevé par rapport aux bénéfices qu'il pourrait en tirer. Et même s'il se rapproche de jour en jour en fait, de la capacité technique de fabriquer une arme nucléaire, pour l'instant, on ne voit pas de signe concrétisant en fait, cette militarisation du programme. Ils savent aussi très bien que ni les États-Unis ni Israël ne les laisseront faire. Et donc, en fait, ils sont très contents de cette dissuasion conventionnelle conventionnelle nourrie à l'aide de cette menace de franchir le seuil nucléaire. Ça semble suffire pour le moment pour protéger l'Iran.
On parle même d'un deal caché entre les Iraniens et les Américains sur le programme nucléaire, Farid Vahid.
Je ne pense pas que personne aujourd'hui voudrait immédiatement d'un nouvel accord. Et de toute façon, aux États-Unis, il y a des élections dans quelques semaines. Et là, en fait, tout est suspendu. Et les Israéliens, pour l'instant, ils ont une fenêtre de tir qu'ils utilisent complètement jusqu'aux élections américaines.
Jusqu'au 5 novembre.
La vraie question pour la République islamique, c'est comment se refaire une forme de dissuasion qui a complètement, en état actuel des choses, disparu contre les Israéliens. Mais encore une fois, tout ça, ça montre l'affaiblissement et l'agonie de la République islamique, qui, à l'intérieur et à l'extérieur, à l'intérieur, vous avez vu l'agonie de la République islamique avec le mouvement Femmes et Liberté, et ils disaient toujours que non, à l'extérieur, nous sommes très puissants, nous avons une influence importante jusqu'à la Méditerranée, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
Je vais vous poser une question, Christophe Ayad. Le Hezbollah est extrêmement affaibli, décapité depuis la mort de Hassan Nasrallah, mais est-ce qu'il peut conserver cette capacité de nuire, notamment à travers des actes terroristes à l'extérieur sur d'autres continents, comme il l'a fait depuis une trentaine d'années? On parle de cette unité 910, cette unité de l'ombre.
Oui, tout à fait, livré parce que le Hezbollah, il a un réseau mondial de sympathisants, de militants, de gens qui blanchissent son argent, de gens qui font du trafic de drogue pour lui, de gens qui achètent des armes pour lui, de gens qui achètent des beepers pour lui, hélas pour eux. Mais il a un réseau, il est présent. Il y a tout récemment encore, on a démantelé un réseau de trafic de pétrole en Asie du Sud-Est, en Thaïlande. À ce que je sache, le Liban ne produit pas de pétrole. Donc, c'est bien qu'il a des aides iraniennes, probablement, et qu'il y a toute une ramification de réseau. Il faut rappeler que le Hezbollah, en 1994, il a commis un attentat contre un centre juif à Buenos Aires qui a fait une centaine de morts. Donc, est-ce qu'on peut revenir à cette époque-là? Peut-être. Parce que c'est peut-être plus sûr et plus prudent que brandir ses missiles face à Netanyahou sans être capable de se protéger par la suite.
Une dernière question. C'est
surprenant, Eloïse Saïd, c'est ce message de Netanyahou cet après-midi même au peuple iranien directement en leur disant qu'ils pouvaient être atteints par l'Iran, mais qu'il les appelait finalement quelque part à être solidaires d'Israël.
Oui, mais ça fait plusieurs années que l'armée israélienne fait des efforts pour communiquer directement en persan. Et comme Farid l'a dit, ils essaient justement d'exploiter les faiblesses de la République islamique et du fait qu'il y a un mouvement de contestation, alors étouffé pour le moment, mais qui est toujours bien présent, pour essayer justement de soulever en fait la population iranienne contre le régime iranien. C'est une version, on va dire, un peu soft aussi de la stratégie de pression maximale qui avait été mise en place par les Américains à l'aide de sanctions économiques. Et donc là, Israël, en fait, essaye un peu tous les moyens possible afin de faire tomber la République islamique, mais qui, à mon sens, ne chutera pas aussi facilement.
Merci, en tout cas. Vos opinions divergeaient, mais c'est extrêmement enrichissant et intéressant. Merci d'avoir participé à ce débat.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.